Oui, bonjour à Daniel, bonjour à toute l'équipe. À l'occasion de la journée de la femme, je viens d'entendre à la radio que M. Raffarin prendrait certaines dispositions en faveur du beau sexe. En effet, M. Raffarin, comme on sait, il est féministe, il lutte pour le progrès social et il tient à éliminer ou à réduire les inégalités entre hommes et femmes. Il sait que les femmes sont discriminées à l'embauche, en politique, et donc surtout dans un contexte où les emplois sont précaires. Alors donc, M. Raffarin agit dans l'intérêt de toutes les femmes. Mais non, M. Raffarin privilégiera les mères de famille. En effet, il souligne que l'expérience pédagogique familiale devra être prise en compte sur le marché du travail. Ce qui revient finalement à promouvoir une idée, disons assez traditionnelle, de la femme, et qui a, disons, un petit air de famille avec le slogan d'un certain maréchal, il y a 60 ans de cela. Mais gageons que M. Raffarin arrivera à faire passer ce beau message pour une preuve de modernisme et même de progressisme. Allez, au revoir et longue vie à toute l'équipe.
Bonjour, c'est une petite information que certains connaissent déjà. Au double chapitre de la régression sociale et de la réforme du statut d'intermittent, je viens d'apprendre que les jours indemnisés par les SICU pour le congé maternité ou maladie, qui jusque-là étaient dégrévés de nos 507 heures de travail, ne le sont plus. En effet, avec la disparition de la date anniversaire, ce qui était, entre guillemets, un avantage, ne semble plus être nécessaire. Mais la conséquence, c'est qu'on risque de se retrouver au lendemain de notre congé maternité, avec plus un rond pour faire vivre notre bambin. On n'aura pas pu travailler, parce qu'il y a beaucoup de professions du spectacle qui sont incompatibles avec une grossesse, et pendant ce temps-là, le compteur de la SEDIC aura tourné, et les 8 mois d'indemnisation seront écoulés. Alors, amie intermittente, attention de bien programmer votre grossesse dans les délais impartis par le MEDEF, mais le mieux serait sans doute que les artistes ne se reproduisent pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la campagne de la droite aux législatives qui disait qu'ils allaient tout faire pour la politique familiale. Ça fait bien rire. Allez, salut.
Salut Daniel, alors c'est Lulu de l'Aveyron. Et c'est pour te dire, alors c'est très sérieux, que tu disais que la vache tu savais pas où la mettre de la rwandaise. Et ben moi j'ai des terres où on a possibilité d'acquérir une vache. Alors écoute, si ça t'intéresse, tu peux me rappeler ou écrire comme tu veux. Et voilà.
Et ben voilà, c'est une offre évidemment sympathique, mais je suis pas sûr de la satisfaire. Hein. Cet auditeur est adorable, mais je suis pas sûr qu'on va rapporter vraiment une vache depuis, ramener une vache depuis le Rwanda. C'est une allusion, une réponse à cette histoire que j'ai racontée, qui est une histoire tout à fait vraie, celle de Valentine, notre amie du Rwanda, qui, lors de la dernière rencontre, m'a proposé, m'a donné une vache, voilà, m'a offert une vache, mais à condition que je l'emmène en France. Voilà, alors je verrai, parce qu'on va bientôt là, je vais bientôt retourner au Rwanda, et je verrai comment ça s'arrange. Évidemment, je ne manquerai pas de vous tenir informé, c'est des événements évidemment très importants. Je plaisante, mais il y a des choses assez intéressantes qui sortent aujourd'hui dans le journal Le Monde au sujet du fameux attentat contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994. Vous savez qu'on ne sait toujours pas quels sont les auteurs de cet attentat. Et là, selon le journal Le Monde, en tous les cas selon le juge Bruguière, l'auteur de l'attentat, enfin les auteurs de l'attentat seraient l'entourage de l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, c'est-à-dire le FPR, c'est-à-dire le Front Patriotique Rwandais. C'est une des hypothèses qui circule depuis pas mal d'années. On verra si avec le temps elle se vérifie, mais une telle information préfigure ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire à l'occasion du 10e anniversaire du génocide du Rwanda, un intérêt décuplé pour ce qui s'est passé là-bas il y a 10 ans, quelqu'un nous l'avait dit en 1995, le génocide est un crime qui ne vieillit pas. Eh bien, effectivement, le crime des crimes ne s'oublie pas de cette façon, non seulement au Rwanda, mais dans le monde entier, puisque le monde entier, pendant 100 jours, a pu voir en direct, quotidiennement, des Tutsis, pour la plupart, et des Hutus opposés au régime autoritaire et ethnique du Rwanda, se faire massacrer à raison de 10 000 personnes par jour pendant 100 jours, et nous n'avons rien fait. C'est quand même un drame assez extraordinaire, une faillite de l'humanité assez importante pour que, peu à peu, on essaye d'en prendre la mesure et de s'interroger sur ce qui s'est passé au Rwanda. C'est ce que nous faisons à nouveau aujourd'hui avec ce deuxième volet de l'entretien avec le général Roméo Dallaire, à l'occasion de la sortie de son livre « J'ai serré la main du diable ». Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la Bassi J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour. Alors, au sujet de l'émission d'hier, on s'avère qu'il y a une pétition de soutien à la constitution d'une commission d'enquête citoyenne sur le rôle de la France durant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Alors, cette pétition peut être signée ou sur le site www.enquête-citoyenne-rwanda.org. Voilà, merci.
Bonjour Daniel, ici Fatih dans le 12e arrondissement, artisan boulanger. Voilà Daniel, en écoutant ton émission, j'ai honte d'être un être humain. Je t'assure Daniel, j'ai honte d'être un être humain. Je n'arrête pas de dire qu'il y a une bête immonde qui sommeille en nous, et je n'arrête pas de dire à tout le monde que la barbarie humaine n'a ni race, ni religion, ni frontière, elle est universelle. Et en t'écoutant sur le Rwanda, je confirme bien ce que je dis. Merci Daniel, au revoir.
Oui, bonjour à toute l'équipe de la Bassi J'y suis. Pour une fois, on sait où vont nos impôts. Un petit message d'un Parisien au volant de sa voiture qui écoute que les chercheurs n'arrivent même pas à avoir 10 petits millions d'euros pour sauver la recherche. Et quand on entend que dans l'affaire Executive Life, l'État français va payer 760 millions d'euros, que Taïwan va certainement nous réclamer 600 millions d'euros, et que M. Raffarin dit « j'assumerai mes positions », je me demande ce qu'il assume, vu que ce n'est certainement pas lui qui va payer. Et quand après les intermittents, le chômage pour économiser une centaine de millions d'euros. De toute façon, rappelons à ces gens-là toute période à ces guillotins. Merci encore pour votre émission, à bientôt.
Bonjour, c'est Marie de Bretagne. Je viens d'entendre Monsieur Le Pen sur France Inter ce matin. Donc il a dit que son programme pesait 1,350 kg. Moi je dis 1,350 kg de misère, 1,350 kg d'exclusion, 1,350 kg de racisme, 1,350 kg de bêtises. Moi je préfère l'amour, la tolérance et l'intelligence. Et puis en plus il est breton, et moi je suis bretonne, et ça me fait bien chier. Voilà, c'est tout, je suis un peu en colère parce que ce mec, il m'énerve. Au revoir, merci.
Sur place à Kigali, la capitale du Rwanda, c'est l'horreur. L'ethnie majoritaire, les Hutus, massacrent les Tutsis par familles entières. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Le récit de l'envoyé spécial de Radio France Internationale, Christophe Boisbouvier.
Ils ont le regard vide, le t-shirt trempé de sueur. Il n'y a même pas sur leur visage une expression de soulagement au moment où leur convoi de camions arrive à l'aéroport. Non, ils en ont trop vu. Un conférent français raconte comment 12 de ses voisins, Hutus comme Tutsi, ont été rafalés par des hommes en uniforme, puis achevés à la machette. Un vétérinaire français, lui aussi, revit comme un cauchemar les 3 derniers jours où il est resté barricadé chez lui. Mais le témoignage le plus terrible, c'est celui du docteur Torlancourt, de MSF France. Depuis 2 jours, elle opérait à l'hôpital central de Kigali. Dans la nuit de samedi à dimanche, des hommes en armes sont venus à l'hôpital et ont achevé les hommes qu'elle avait sauvés. Ailleurs, dans le quartier Gikondo, elle a appris que des dizaines de malheureux qui s'étaient réfugiés dans une église ont été poussés dehors et abattus au fusil puis à la machette. Le docteur a cette phrase, pendant deux jours, je n'ai vu que des morts ou des blessés graves, aucun blessé léger. J'ai connu des situations difficiles au Mozambique, au Burundi, mais ça je ne l'avais jamais vu, dit-elle. C'est la chasse aux Tutsis, parfois aux Belges, je ne sais plus à quoi je sers, je me replie sur le Burundi avec notre dernière équipe.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec le lieutenant général Roméo Dallaire, j'ai serré la main du diable.
Flight number 2, arriving from
ubundi bahita bakubitunura ku muryango naho ngaho bari bakinjira ubundi bahita baseka cyane mwavamo aravuga ngo mbaye wa mbere gusahura ibyo kwa Yesu.
Et puis quelqu'un il s'est vanté, je suis le premier d'avoir pillé les biens de Jésus.
Barangije rero baragenda.
Après ils sont partis.
Ubundi abakuru banjye rero bari batarapfa ariko nari nzi ko bapfuye.
Et puis mes frères, je croyais qu'ils étaient morts, mais ils étaient encore en vie.
Ariko bari bagiye mukuru wanjye we azi ko bakomeje bakagenda hari ari mu bihishe. None arahamye yihishe. None ubundi mukuru wanjye arabyuka aricara.
Mon frère qui s'était caché, il s'est levé un peu, puis il s'est mis en position assise.
Ubundi ahita ahamagara abandi ngo dore uwo mukobwa ni muzima.
Et puis un autre a appelé, a dit, ah, la fille là, elle est encore vivante. Et puis ils l'ont tué. C'était une sœur à Valentine.
C'était une sœur à toi?
...1995, récit de Valentine. Valentine Iribagiza, à l'époque, avait 14 ans. Et un an après, vous vous souvenez, on l'avait retrouvée. Et elle nous a fait ce long récit de ses 39 jours qu'elle a passé dans le charnier de Niaroubouye, où un an avant, on l'avait retrouvée, seule, vivante, parmi les cadavres. Et elle nous a fait ce récit extraordinairement précis. Aujourd'hui, en réécoutant ce que nous vous ferons entendre dans quelques jours, à partir du 30 mars, les témoignages de ces époques-là, que ce soit les témoignages des rescapés rencontrés sur la frontière avec le Burundi, ou les premiers mots que nous a Valentine lorsque nous l'avons trouvée, ou là encore un an plus tard, c'est l'extraordinaire précision de ces témoignages. Nous ne croyions pas ce qu'on nous disait. On ne croyait pas ce qu'on nous disait. On pensait, c'est des gens qui sont frappés, qui sont traumatisés, qui sont sous choc et qui nous disent des choses délirantes. Non, tout était précis. Tout était extraordinairement précis. Maintenant que une partie des cartes sont retournées, visiblement pas toutes, eh bien, ces récits étaient extrêmement précis et donc d'autant plus précieux. Pourquoi était-il si précis? Parce que on est dans une civilisation de l'oralité. 95% des Rwandais sont analphabètes et ce qu'on dit est extrêmement important et on a l'habitude de dire des choses très précises. Et tous ces récits donc nous disaient ce qui s'était passé, mais on ne comprenait pas. On ne peut pas comprendre ce qu'on ne peut pas imaginer, et nous ne pouvions pas imaginer ce qu'on nous disait. Le temps, peu à peu, nous permettra de prendre la mesure de ce qui s'est passé il y a 10 ans au Rwanda. Un homme comme Roméo Dallaire, que nous retrouvons aujourd'hui, ce lieutenant général, aujourd'hui à la retraite, et qui publie ce livre étonnant, « J'ai serré la main du diable, la faillite de l'humanité au Rwanda », veut dire aussi une faillite personnelle. Ça a été sa faillite personnelle. C'est un homme blessé, traumatisé, qui a mis très longtemps avant d'écrire ce livre somme, ce livre énorme, qui est la tragédie d'un homme. Je vais parler bien sûr du Rwanda et des Rwandais, mais je vais quand même parler un peu de lui d'abord. Cette tragédie d'un homme qui est pris entre l'obéissance, puisqu'il est un militaire, et la désobéissance, parce qu'il est un homme et parce qu'il aurait fallu désobéir. Et il n'a pas désobéi, il a obéi. Et c'est un homme qui est broyé entre ces deux forces, ces deux attirances qui ont été les siennes et qu'il nous livre aujourd'hui avec une honnêteté totale. Est-ce qu'il s'abuse lui-même? Est-ce que le manque d'information dans lequel il a été maintenu fait que son témoignage sera peut-être revu par la suite et corrigé? C'est très probable. L'histoire du Rwanda est en train de s'écrire. Les choses sont encore, je disais à quelqu'un, la fontanelle est encore ouverte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore, on n'a pas tous les éléments sur cette tragédie, d'autant plus que les assassins de la mémoire sont à l'œuvre. Il y a eu pour le Rwanda un négationnisme immédiat, qui en temps direct, en temps réel, qui s'est mis en œuvre, puisque on voyait ce génocide en temps réel. Eh bien, le négationnisme, les assassins de la mémoire se sont mis en œuvre en temps réel également, et aujourd'hui les proxénètes de la mémoire sont à l'œuvre. Donc voilà. Deux forces qui s'opposent au-dessus d'une nécessaire vérité pour une nécessaire justice. C'est ce que nous devons, nous je dis pas communauté internationale, mais simplement humanité. On le doit à des gens comme Valentine Iribagiza, cette petite fillette de 13 ans qui a survécu. Et dans ce désespoir total qui a été ce drame, elle a représenté pour nous la vie, tout simplement. Maurice Blanchot dit quelque part la vie était à peu près tout le sacré. Il dit ça des camps d'extermination. La vie était à peu près tout le sacré. Eh bien, c'est ce qui se passait à l'époque, il y a 10 ans. On va donc retrouver le général Dallaire là où on l'avait laissé hier, au moment où on évoquait Madame Agathe. Madame Agathe, celle qu'on appelait Madame Agathe, son nom en rwandais étant trop difficile à prononcer, on l'appelait Madame Agathe, faisait partie, elle était premier ministre, et elle faisait partie de ceux qu'on a appelés les Hutus modérés. On oublie trop souvent que si les Tutsis ont été victimes de ce génocide, simplement parce qu'ils avaient tort d'être nés Tutsis, il y a eu aussi les Hutus modérés, et notamment l'élite à Kigali, de ces gens qui s'opposaient à l'ethnisme, l'intégrisme ethnique sur lesquels jouait le pouvoir pour se maintenir au pouvoir. Et dans les premières heures des massacres, Madame Agathe, ainsi que ses gardes du corps des casques bleus belges, ont été assassinés. Et sur France Inter, dans les heures qui ont suivi le déclenchement des massacres, on pouvait entendre sa voix.
En Afrique, après la mort des chefs d'État du Burundi et du Rwanda, la situation s'est dramatiquement détériorée à Kigali, la capitale rwandaise. Kigali, où les forces gouvernementales, à majorité Hutu, affrontent en ce moment les troupes du Front Patriotique de la minorité Tutsi. Des violences qui ont en 24 heures causé la mort d'un grand nombre de civils. Parmi les victimes figure le premier ministre du Rwanda, Madame Agathe Uwilingiyimana. Juste avant d'être tuée par des membres de la garde présidentielle, sur les ondes de Radio France Internationale, elle avait demandé aux Nations Unies d'intervenir au plus vite.
Ce que je peux dire à la communauté internationale, c'est de solliciter à la communauté internationale d'intervenir pour que le peuple rwandais puisse garder son calme, puisse réellement garder son calme et continuer dans la voie de la paix dans laquelle il s'est engagé depuis bientôt une année.
Et comment faire pour ça?
La communauté internationale peut nous aider pour que les choses n'évoluent pas mal, pour que on se remette sur les rails de la recherche de la paix. Ce serait, je pense, le peuple rwandais aurait toute sa vie à remercier à la communauté internationale de cela.
Agathe Uwilingiyimana a été tuée juste après avoir lancé cet appel en direction de la communauté internationale. Plusieurs ressortissants belges, des civils et des militaires auraient eux aussi été tués. 600 Français vivent actuellement au Rwanda. Le Rwanda où s'affrontent une nouvelle fois les deux ethnies, Hutu et Tutsi. Les présidents du Rwanda et du Burundi, je vous le rappelle, sont morts dans l'avion qui les ramenait d'un sommet africain. Des témoins affirment que l'appareil aurait été la cible d'un tir de roquette, ce que démentent les autorités burundaises qui retiennent encore la thèse de l'accident.
10 ans après, est-ce qu'on sait qui a tiré sur cet avion?
Très clairement, non. Il n'y a pas eu d'investigation approfondie, il n'y a pas eu d'études même académiques de grande valeur. Aujourd'hui même, moi, je peux vous présenter 4-5 théories de qui aurait pu potentiellement bénéficier de la mort d'Abilimana.
Mais pourtant, les services américains ou les services belges ou les services français le savent.
Tout au long et depuis, je suis pleinement convaincu que les Américains, les Français, les Belges, plus ou moins les Anglais, avaient beaucoup plus d'informations et étaient informés sur qu'est-ce qui se passait au Rwanda. Par exemple, d'un côté des Américains, et sur ça, il y a des preuves maintenant aujourd'hui qui dit que le Rwanda n'est absolument de aucun intérêt aux Américains et qu'ils se sont pas intéressés jusqu'au dernier moment, même si toute l'information y était.
On écoutait tout à l'heure Valentine, la petite Valentine, avant le lieutenant général Roméo Dallaire, là, qu'on vient de retrouver. Et ce qui est important dans le drame du Rwanda, c'est que ces morts, on ne sait toujours pas si c'est entre 500 000 et 1 million de morts. Hein, concernant le Rwanda, 10 ans après, on est toujours incapable, à 500 000 près, de savoir combien de victimes. Mais ces morts ne sont pas le résultat des forces impersonnelles de l'histoire. Mais c'est le résultat d'une entreprise humaine qui a été conçue par une élite politique, je le disais, pour se maintenir au pouvoir en instrumentalisant une identité ethnique qui a été bel et bien inventée par l'Occident et imposée par la colonisation occidentale et les missionnaires. Alors évidemment, les Rwandais qui ont conçu, qui ont exécuté ce génocide doivent en assumer la responsabilité entière, mais un génocide, qu'on se réfère aux résolutions des Nations Unies des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, un génocide où qu'il se produise implique toute l'humanité. Alors, j'insiste bien sur l'idée que ce génocide a été conçu par une élite politique, et c'est pas les Tutsis qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est pas les Hutus qui étaient au pouvoir hier, c'est une des factions politiques qui s'affrontent et qui instrumentalisent cette ethnicité imaginaire d'abord, et puis qui est devenue une réalité pour ceux qui se disent Hutu et Tutsi. Mais c'est une manipulation des pouvoirs, et c'est à ces manipulations que s'opposaient ceux qu'on appelait alors les modérés. Roméo Dallaire. Dans les heures qui suivent l'attentat contre cet avion, il y a une série de tueries, enfin, qui se mettent en place et qui visent les modérés.
Oui.
Qui vise les modérés et toute une élite qui pourrait gêner le déroulement des massacres.
Ben, c'est-à-dire que dans la nuit du 6 au 7, la première ministre, j'étais en contact avec elle et elle m'informait que elle avait beaucoup de misère à contacter les ministres dont elle considérait de mouvance modérée, parce qu'ils semblaient avoir disparu ou à ne contacter quelques-uns et ainsi de suite, mais tout le monde avait peur. Mais du côté des ministres MRND, à un moment donné, ils ont tous disparu. Absolument tout le groupe a disparu, et 2 jours plus tard, tous ces gens-là sont réapparus. À ce moment, on avait comme analyse que l'évolution de la situation sur le terrain venait ou était menée par des gens qui, au début, je pensais mener un coup d'État.
Mm-hmm.
J'espérais que ce soit un coup d'État, même des modérés dans les forces gouvernementales, parce que je œuvrais avec eux, je prenais tous les moyens possibles pour pouvoir amener à bon port l'accord de paix. Mais ce qu'on a vu dès la matinée, et ça c'est de mes observateurs, de mes gens qui me rapportaient ça, c'était qu'on voyait la garde présidentielle aider avec peut-être des gendarmes, et ainsi de suite, qui se promenaient dans les rues avec les listes en main,
mm-hmm.
et qui rentraient dans des maisons, on entendait des cris, des coups de feu, et puis après ça, rien, les gens sortaient, allaient à 3-4 portes plus loin, puis faisaient la même chose. Donc il y avait un génocide d'une mouvance, la mouvance
modérée,
ou la mouvance que j'aime mieux appeler de réconciliation.
Mm-hmm.
Donc, qu'ils soient Tutsi ou tout, ils ont été littéralement décapités dans les premiers jours de tout ça.
Dont la première ministre, Mme Agathe.
Oui, et ça, le premier matin, et des gens comme Faustin Toagiru-Mungu, donc le premier ministre désigné pour le nouveau gouvernement, il n'a pas été tué parce qu'on a réussi à le sauver, lui.
Alors, votre livre, Roméo Dallaire, s'appelle « J'ai serré la main du diable
».
C'est qui le diable?
Ah ben le diable, c'est justement ces éléments extrémistes reflétés dans des humains comme Bagasora, qui était un gros joueur dans cette période, qui était en particulier les chefs des Interahamwe, qui se présentaient à moi. Encore avec du sang sur leur chemise.
C'est extraordinaire cet épisode-là que vous racontez. Vous rencontrez des jeunes cadres, comment dire, des jeunes responsables, si on peut dire ce mot-là, des Interahamwe, et vous leur serrez la main.
Oui.
Et ils sont encore pleins de sang. Les gars ont du sang.
C'est-à-dire qu'il y en a un qui a du sang sur lui. Et voilà des problèmes fondamentaux d'éthique. Est-ce que on serre la main des tueurs ou est-ce que on leur met une balle entre les deux yeux et tenter de les déstabiliser? À ce moment-là, je ne croyais que ma seule option, c'était de négocier avec ces gens-là qui étaient les gros joueurs sur le terrain faisant les massacres à gauche et à droite et de tenter de les influencer à arrêter de massacrer, mais aussi de négocier des méthodes pour transférer des gens qui étaient sous notre protection entre les deux lignes. On avait au-dessus de 30 000 qui étaient pris derrière les lignes d'un côté et de l'autre et les ramener. Mais eux autres m'ont clairement dit que ils avaient eux autres l'autorité sur les miliciens. Et ils me disaient, ah oui, oui, nous sommes d'accord avec vous, donc on va ordonner à nos gens sur les barrières d'arrêter de massacrer. Alors, ils nous ont dit ça en pleine face.
Donc, c'est vous qui massacrez.
Oui,
ça vient à ça, quoi.
C'est eux qui massacraient.
Ouais.
Et d'ailleurs, ça a été reconnu par Bagasora, qui était tout de même le chef à ce moment-là, que oui, les Interahamwe, c'est eux autres qui massacraient, et que ces Interahamwe-là faisaient partie de la branche des jeunes, la milice du parti MRND, donc le parti du président, le parti qui était au pouvoir dans cette dictature depuis belle lurette, presque 30 ans.
Bagasora, pour vous, c'est l'architecte, c'est le Hitler rwandais?
Ah, non, je lui donne pas autant d'atouts que ça. Il est sûrement le Lucifer sur le terrain. Mais j'ai toujours douté qu'il œuvrait seul. Et ce n'est pas le gouvernement intérimaire qu'ils ont établi deux jours après le début, qui était seulement des durs. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, des gens beaucoup plus élevés qui lui tiraient les ficelles avec qui il communiquait quand il était... Parce qu'il rencontrait toutes sortes de monde, lui. Hein. C'était pas juste le volet militaire, c'était le volet politique, c'était le volet des hommes d'affaires. Je veux dire, il œuvrait sur le terrain à Kigali avec tous ces différents éléments-là. Alors, ce que je pense, c'est que l'entité qu'on a identifiée comme la troisième force, donc cette structure politique dont souvent on utilisait le nom de Madame Agatha Birmana, ainsi de suite.
Elle est l'épouse du président.
L'épouse du président, qui ont été sauvés dans le premier jour de déploiement français pour sortir des expatriés. Ils ont tous été sauvés.
Ça, c'est un très grand scandale. Hein. Ouais, c'est l'opération Amaryllis.
Yeah.
Hein, c'est ça, c'est l'opération Amaryllis qui va permettre de rapatrier les Français expatriés.
Oui.
Hein, plus la France, enfin le gouvernement de l'époque, va sauver.
Oui, c'est-à-dire qu'elle a sauvé des éléments qui n'étaient pas nécessairement dans la chaîne de gouvernement. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que c'est pas nécessairement des politiciens qui ont été sauvés, c'était des gens dans la périphérie de la politique, comme Madame Agathe puis ses beaux-frères, ainsi de suite. Alors, ce volet que je trouve absolument abominable de la décision française, parce qu'elle supportait tout de même le régime en place, était amplifié par le fait que lorsque j'ai demandé à eux et aux Belges s'ils pouvaient sauver des Rwandais, la réponse était claire, non, nous ne sommes pas ici pour sortir les Noirs, seulement les Blancs.
Qui vous a dit ça?
Ah, les autorités françaises en particulier.
Au niveau de l'ambassade militaire?
Non, militaire sur le terrain.
On n'est pas là pour sauver des nègres.
Oui.
Nom de code, opération Amaryllis, elle est en cours depuis hier soir. Des avions de transport militaire du type Transal ont donc décollé dans la nuit de Centrafrique, où la France dispose d'une base. Au bout de 4 heures de vol environ, les appareils se sont posés sans encombre sur l'aéroport de Kigali. Les premiers marsouins, 180 du 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine, ont été accueillis par un petit groupe de casques bleus belges. L'ONU disposait déjà au Rwanda de forces censées mettre en œuvre un accord politique théoriquement conclu en août dernier. En fait, au Rwanda, non seulement il n'y a aucun accord véritable, mais la violence a fait rage de mercredi soir à hier soir. Des milliers de morts au total, parmi eux le chef de l'État, le Premier ministre, des Hutus, des Tutsis, il s'agit des deux tribus rivales, mais aussi des ressortissants étrangers, par exemple des casques bleus belges, et sans doute au moins 3 Français, un couple de coopérants et un prêtre. Évacuer des ressortissants menacés dans un pays en proie au chaos à plusieurs milliers de kilomètres, c'est un scénario auquel réfléchissent depuis longtemps tous les états-majors. Mais face à la gravité de la situation, plusieurs pays ont décidé d'agir vite et de concert. Des avions de transport et des parachutistes belges sont attendus dans la journée. Les Américains viennent d'acheminer à Mombasa, un port kényan sur l'océan Indien, des unités amphibies qui naviguaient au large de la Somalie. 200 marines, des avions, des hélicoptères sont déjà sur place. Ces 3 communautés, belges, françaises, américaines, représentent à elles seules près de 2500 civils à évacuer et à évacuer d'urgence, car les rebelles Tutsis du front patriotique rwandais annonce maintenant qu'ils vont attaquer Kigali.
Voilà, c'était le 9 avril 1994 sur France Inter. On évoque les deux tribus rivales et l'inquiétude, elle concerne évidemment les ressortissants français qui seraient menacés et qu'il faudrait se sauver le plus vite possible. Courage, fuyons, les sauvages avancent. C'était un peu ça qui prévalait dans l'ensemble des médias. Alors, je souligne encore les deux tribus rivales. On se souvient comment à l'époque s'est engagé une polémique sur les ethnies. Qu'est-ce que c'est que ces ethnies? Pourquoi est-ce aussi irréconciliable ces ethnies entre elles qui se passent leur temps à se découper en rondelles? C'était un peu ça quand même qui était mis en avant. Et puis le temps maintenant a permis de comprendre, de donner un début de profondeur historique à cette région du monde que nous ignorons, que nous négligeons. Nous n'oublions pas que la suite de ces génocides a été une guerre dans la région des Grands Lacs qui a fait autour de 2 à 3 millions de morts. C'est quand même des drames absolument terribles dont nous ne savons pas grand chose, et nous ne savons pas grand chose sur ce qu'est une ethnie, même plus souvent ce qu'est une tribu. Je pense que Roméo Dallaire, il nous l'a dit,
hier, lorsqu'il est arrivé lui-même au Rwanda en 1993, ne savait pas grand-chose de la situation. Mais on voit qu'il a été rapidement plongé au cœur des ténèbres.
Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Vous disiez, oui, Bagosora, c'est pas forcément lui le cerveau. Alors, qui était le cerveau? Qui étaient les cerveaux de ce...
Ceux qui formaient cette structure de troisième force, le volet politique de ça.
C'est-à-dire?
Eh bien, c'est-à-dire que des gens dont je connais pas formellement et d'une façon déterminée leur connaissance. Mm-hmm. Je n'ai que des rumeurs, qu'il y avait quelques hommes d'affaires qui avaient... On parlait de Madame Agathe, on parlait de beaux-frères, on parlait de différentes personnes, mais il n'y a jamais eu d'investigation faite par nous ou de travail d'intelligence ou de contre-intelligence pour pouvoir déterminer ça, parce que j'avais absolument aucun droit de le faire.
Depuis le début de cet entretien, général, il y a un mot qu'on n'emploie pas du tout. On n'emploie pas le mot ethnie. Hein? Vous ne parlez pas du tout d'ethnie.
Yeah.
Or, à l'époque, il y a 10 ans, ça a été présenté comme un conflit ethnique.
Oui, ça c'est vraiment une dimension que je considère la plus scandaleuse, c'est que on banalisait qu'est-ce qui se passait là par ethnie, mais souvent par tribalisme, tu sais, des tribus qui historiquement se sont toujours entretués. Bon, ben, tu sais, c'est tout de même les Africains, ils sont pas éduqués, une certaine élite qui veut pas partager le pouvoir. Donc, ce sont des batailles entre des tribus, puis qu'on les laisse faire, qu'ils fassent leur tuerie, puis après ça, on viendra ramasser les pots cassés. Tout à fait contraire à ce qui arrive en Yougoslavie, selon moi, n'est pas contraire. Je veux dire, on a baptisé l'épuration ethnique, on a défendu l'histoire 300-400 ans auparavant, donc ce sont des religions, on a étudié ça, c'est tout de même des peuples civilisés qui ne se rencontrent pas. Donc ça c'est important, c'est significatif, c'est pondéré et puis c'est épouvantable. Puis ils sont blancs et ils sont en Europe, donc tout de même il faut y faire quelque chose. Mais les conflits politiques et conflits de philosophie politique de démocratie, c'est totalement perdu au Rwanda dans nos analyses. Ce n'est que des tribus qui se battent entre eux. Et avoir banalisé ça comme ça a fait que lorsque finalement les gens, un mois après que les massacres ont commencé, donc au mois de mai, que finalement les gens utilisent d'une façon ouverte le terme génocide, alors, ça n'a absolument rien fait de différent.
C'est ça qui est terrible. Mais à partir de quand il apparaît ce terme de génocide?
Ouais, nous autres, on commence à l'utiliser comme tel autour du 26 avril. Parce que, encore une fois, on voyait le génocide politique ou de philosophie. On voyait qu'il y avait des exactions qui se faisaient, mais il y avait des Tutsis, des Hutus aussi qui étaient tués, et que c'était pas propagé partout dans le pays. Mais avec chaque jour qui passait, ça devenait de plus en plus évident qu'on dépassait le concept de massacre, comme on la comprenait. On avait dépassé le volet de épuration ethnique et qu'on était rendu dans quelque chose de beaucoup plus massif. Parce que on était éduqué que génocide était égal à holocauste, on avait de la misère à concevoir que l'Holocauste pouvait se faire encore. Et donc, ça a pris le temps de passer outre tout ce bagage culturel des derniers 50 ans pour dire, « Hey, c'est pas juste des Juifs qui sont tués dans l'Holocauste qui veut dire génocide, mais que d'autres gens aussi qui sont tués et spécifiquement ciblés peuvent être des victimes d'un génocide. » Et donc, ça a été... pour nous, vers la dernière semaine d'avril, et là, il a fallu des batailles épouvantables. Je pense que Boutros Ghali l'a utilisé le 29 avril, puis ça a pris encore une semaine, 10 jours.
Fin avril, le Conseil de sécurité se réunit, justement autour de ce mot de génocide.
Elle refuse de le reconnaître jusqu'au tour du 7-8 mai, mais... lorsqu'on est en train de discuter les détails pour me renforcer au point de vue de capacité militaire et politique, mais principalement militaire, pour non pas être une force d'intervention entre les deux armées qui se battent, mais pour être une force qui arrêterait les massacres derrière les lignes Hutus en particulier, et d'être présent derrière les lignes rebelles pour pas qu'il y ait des exactions dont on entendait parler.
Alors, au début mai, le terme de génocide est finalement reconnu par le Conseil de sécurité, mais il y a immédiatement des circulaires et des dispositions qui ordonnent de ne pas employer le mot, de trouver une façon d'euphémiser, de ne pas employer ce mot-là.
Ben, c'est-à-dire que ça fait partie de l'engrenage que je viens de vous expliquer. Parce qu'à un moment donné, et ça, ça a pris une couple d'autres semaines, pour les Américains en particulier, ils ont utilisé d'une façon courante le terme génocide. Alors, même si au Conseil de sécurité, on a accepté le terme et que les Américains sont représentés, ça a pris encore un peu de temps, quelques semaines, pour que la structure gouvernementale et militaire américaine accepte le terme génocide. Mais tout comme on voulait pas me donner de l'aide pour éliminer les émissions de RTLM qui amenaient les gens à faire des actes de génocide, parce qu'on utilisait l'argument, ben c'est tout de même un pays souverain, tu sais, on peut pas s'ingérer, donc on fait rien de ce côté-là. Mais lorsque le terme génocide est utilisé, on fait absolument rien encore.
Or, on doit.
Dire, toutes les ententes qui entourent le terme génocide exigent que les pays
signataires de cet accord sur le génocide,
qui est essentiellement un accord au cœur même de la Charte des Nations Unies, doivent intervenir.
Doivent intervenir et punir où que ce soit.
Ben, c'est-à-dire intervenir, arrêter et mener justement des investigations pour ultimement punir. Oui.
Voilà, ça c'est des résolutions de 1948.
C'est ça. Mais personne s'en sert.
Complicité de génocide. Il y a eu complicité de génocide, il y a 10 ans, vis-à-vis du Rwanda. Et cette complicité, il faut la chercher dans les responsabilités et les responsables d'une série de pays, de la communauté internationale, comme on dit, c'est insaisissable communauté, et qui sont les responsables des Nations Unies, des États-Unis, de la France, de la Belgique, même de l'Afrique du Sud, à cause de cette apathie cynique qui a empêché toute intervention. Et là, Roméo Dallaire parle de cette radio, la RTLM, la radio-télévision des Mille Collines, qui avait été conçue 2 années auparavant pour en vue d'une extermination massive, et qui, pendant les 100 jours des massacres, a été le moyen du génocide. Dans un pays, je le disais tout à l'heure, à 95% analphabète, évidemment, la radio est une voix divine, et des listes, je l'ai dit, étaient diffusées, des listes de personnes à tuer étaient diffusées, des ordres très précis, extrêmement précis dans ce pays et très administré qu'est le Rwanda, étaient diffusés sur cette radio, et c'est cette radio qui a permis le génocide. Donc, sans être un grand stratège, je sais bien, et vous aussi, que on peut très facilement brouiller une radio, et ça n'a pas été le cas. On va revenir sur les informations qu'on avait sur notre radio. Ici à France Inter, il y a 10 ans, il y avait un certain nombre d'intervenants qui parlaient, qui analysaient la situation. Et voilà, il y a exactement 10 ans, ce que disait Ronnie Broman. Ronnie Broman, vous le connaissez, c'est le président d'honneur maintenant, ex-président de Médecins Sans Frontières. Il était interrogé sur France Inter 4 jours après le début des massacres au Rwanda, le 11 avril 1994.
C'est absolument terrifiant. Nos équipes sur place, il y a un certain nombre qui en ont vu d'autres, si j'ose dire, elles sont absolument bouleversées par ce qu'elles ont vu, voir sous ses yeux le personnel local avec lequel on travaille, avec lequel on a évidemment des relations d'amitié, de se faire impitoyablement massacrer simplement parce qu'il s'agit de Tutsi et que des Hutus extrémistes ont décidé que ces gens-là n'avaient plus leur place sur la Terre, c'est absolument bouleversant. Alors nous ne sommes pas pris à partie, nous ne sommes pas menacés, nous autres les étrangers, parce que c'est un problème purement local et qu'une distinction est faite entre les étrangers et les locaux. Mais enfin, c'est terrifiant. Cela dit, je voudrais tout de même...
Vous n'êtes pas menacés pour l'instant.
Non, nous ne sommes pas menacés pour l'instant. Je voudrais juste dire tout de même qu'il ne faut pas trop ethniciser, c'est-à-dire enfermer ce conflit dans des considérations purement ethniques. Il y a effectivement, contre les Tutsis, une violence qui se déclenche, une violence aveugle. Il suffit d'être Tutsi actuellement au Rwanda pour avoir sa vie menacée. Mais il n'y a pas que les Tutsis qui sont menacés. Il y a aussi les Hutus, c'est-à-dire l'ethnie dominante, parce qu'il y a un véritable conflit politique, et pas seulement ethnique, à l'intérieur de ce pays. Il y a une dictature que, d'ailleurs, au fil des régimes successifs que la France a connus, nous avons fortement, fermement soutenu, quels que soient les gouvernements. Et puis, il y a des opposants. Et les opposants se font aussi impitoyablement massacrer que les Tutsis. Autrement dit, il y a évidemment une composante ethnique, mais il y a une très forte composante politique.
La communauté internationale a-t-elle une responsabilité et peut-elle faire quelque chose? Ou là, c'est vraiment tellement la sauvagerie à l'état pur qu'on ne peut que compter les morts?
Vous savez, comme en Somalie, d'une certaine manière, la communauté internationale a une responsabilité dans la mesure où elle a soutenu de manière constante, avec beaucoup de fidélité, un régime qui était un régime dictatorial, qui a étouffé toute opposition et qui a joué sur des antagonismes ethniques, qui a fait vibrer la corde ethnique, l'identité raciale. Et on le sait, sous tous les climats, quel que soit l'endroit de la planète où on se trouve, lorsqu'on commence à faire vibrer ce genre de corde, eh bien on voit droit vers la violence. Malheureusement, on n'a pas voulu voir qu'on encourageait un régime qui lui-même amenait son pays vers le suicide. Aujourd'hui, je ne vois pas ce que la communauté internationale peut faire, franchement, à part protéger les étrangers.
Alors c'était il y a 10 ans, et selon Roméo Dallaire, aujourd'hui, 10 ans plus tard, ce général, donc, des, je vous le rappelle, de cette mission des Nations Unies au Rwanda, qui encore une fois, il faut le rappeler, n'avait pas pour mission d'assurer la sécurité au Rwanda, mais de, comme il nous le disait hier, de créer une atmosphère, comme il dit, favorable aux accords de paix qui avait été signé à Arusha entre les deux composantes Tutsi et Hutu, c'est-à-dire entre le FPR et le gouvernement d'Habyarimana. Ces accords de paix visaient à l'intégration et au retour des Tutsis peu à peu d'un... Voilà, c'était comme ça. Et il était là, sa mission se limitait à ça. Et la situation évoluant et se dramatisant comme vous le comprenez, eh bien, il se référait toujours à sa hiérarchie aux Nations Unies qui lui refusait tout concours et tout renfort. Et cet homme, donc, voilà, a vécu ça, et il raconte 10 ans, il lui a fallu 10 ans quand même pour raconter ça précisément sur le papier, tant ce drame a été pour lui, ce drame des hommes a été pour lui son drame à lui en tant qu'homme. Alors ça va durer pendant 100 jours comme ça, à raison de 8000, 10000 personnes tuées chaque jour en moyenne. Et je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur la radio et télévision des 1000 collines. Effectivement, vous le dites dans votre bouquin, c'est cette radio qui va être la radio du crime au Rwanda. Beaucoup de gens sont illettrés, analphabètes. Donc la radio a une importance capitale. C'est, vous le dites, c'est la voix de Dieu. Enfin, c'est une voix divine. Donc exact. On obéit, on écoute, et c'est très important. Donc cette radio a toute l'importance. Effectivement, vous êtes militaire. Vous savez très bien qu'on peut interrompre une radio quand on veut. Il n'y a rien de plus fragile qu'une radio.
Puis je voyais des avions dans le ciel qui étaient des avions d'écoute qui ont la capacité de faire ça. Et il n'y a rien de sophistiqué au point de vue communication au Rwanda. Ça fait que tout le monde pouvait écouter ça, capter ça sans aucun problème. Les satellites pouvaient capter.
Donc on pouvait arrêter. Ça, c'est une mesure qu'on pouvait prendre. Mais est-ce qu'il y avait d'autres moyens d'arrêter les massacres? Parce que comme ces massacres étaient très organisés, hein,
oui.
le Rwanda, contrairement à l'idée qu'on se fait généralement de l'Afrique, est un pays très administré, très organisé, et les massacres ont pu avoir cette efficacité, entre guillemets, à cause de l'organisation, l'administration de ce pays. Donc, ça rendait, pour vous, les choses d'autant plus faciles pour arrêter la machine, non?
Exactement. C'est pour ça le concept que j'avais, c'était de, en premier lieu, d'arrêter toutes ces actions de massacre avec les tramways, puis même les militaires, à Kigali même, qui était pour moi la cible la plus facile et directe à le faire. Et à partir de là, avec le brouillage de Radio Mille-Collines, on a pu de concert non seulement faire des opérations, mais aussi informer les gens que la communauté internationale est à contre ça, on est déployé, on est ici pour aider, protéger, une action que je faisais, mais j'avais pas l'autorité de le faire, mais tout de même, on l'a fait. Et par ce fait, les gens qui étaient dans les villages, qui étaient sous le joug des Interahamwe et du MND, auraient pu se soulever contre. Ah. Parce que c'est pas de nature que ces gens-là, qui sont tous judéo-chrétiens, c'était pas de bonne foi qu'ils tuaient et s'entretuaient, puis que les époux tuaient les épouses, les enfants étaient utilisés souvent à tuer leurs grands-parents. Ça se faisait pas de bonne foi, ça se faisait sous un joug de terreur, parce que on leur disait, si vous tuez pas eux autres, on va vous tuer. Mm-hmm. Et donc, ça prenait justement quelque chose avec une musclée qui pourrait leur dire, vous avez pas besoin d'avoir peur des Interahamwe ou du MRND, parce que nous allons être présents pour vous aider. Et donc, le peuple, selon moi, aurait tourné contre ces organisateurs-là. Et au point de vue militaire, le côté du gouvernement faisait longtemps qu'ils étaient prêts, eux autres, à se rendre, sauf les quelques unités élites, basées autour de Kigali, qu'on aurait pu neutraliser dès lors. Et le reste de l'armée rwandaise se serait effondré. En faisant cela, le Fonds patriotique n'avait plus de raison de continuer son avance, donc on aurait arrêté l'avance du Front patriotique, et là, on aurait commencé à négocier pour une entente entre les deux groupes.
La responsabilité du FPR au cours de cette crise.
De ce côté-là, comme j'ai écrit dans mon livre, j'ai questionné justement la longueur de la campagne FPR à prendre contrôle du Rwanda. Leur but, ils l'ont énoncé tout de suite avant de lancer leurs troupes, était d'arrêter les massacres, c'est-à-dire arrêter qu'on tue les leurs, dont essentiellement des Tutsis, mais la tendance, la mouvance modérée. Mais j'ai trouvé que 3 mois et demi, ça faisait pas mal long, et aussi 800 000 morts, ça commençait à être tout de même un chiffre de grande envergure qu'on aurait pu, selon moi, éviter avec des opérations encore plus hâtives, délibérées mais hâtives, que je croyais le Fonds patriotique était en mesure de faire.
Sur l'opération Turquoise, en deux mots, comment vous la...
Je le dis clairement, Turquoise a sauvé beaucoup de Rwandais. Il n'y a aucun doute sur ce volet-là. Mais que Turquoise avait une ambition militaire très claire à sauver autant du Rwanda qu'il pouvait, a permis tout de même aux extrémistes, tant politiques que militaires, de s'esquiver pour des objectifs ultérieurs. Elle n'était pas équipée pour être une structure purement humanitaire, comme on le décrit. Elle n'avait pas le transport et elle n'avait pas l'organisation sur place pour le faire non plus.
Donc vous considérez que le gouvernement français de l'époque avait parmi ses intentions celle de protéger, de constituer une sorte de sanctuaire pour le camp, finalement, le camp des génocidaires.
Mon analyse stratégique de la situation et tactique, c'était que on voulait établir un genre de scénario à la Chypre. Mm-hmm. Deux côtés divisés avec peut-être un intervenant dans le milieu et là, permettre des négociations se faire. Mais sauf que du côté que les Français protégeaient, il n'y avait plus de modérés, c'était seulement des extrémistes qui vivaient, qui existaient. Alors, le Front patriotique n'aurait jamais négocié avec les extrémistes. Alors, il n'y avait pas d'autre option. Les quelques modérés qui ont survécu se sont ramassés derrière les lignes du Front patriotique et jamais nécessairement dans les lignes des Français. J'ai été derrière les lignes françaises pour sortir deux des dirigeants militaires modérés, il est vrai, mais pour les amener du côté Front patriotique parce que c'était là où ce qu'ils voulaient. Et pendant l'opération turquoise, on a permis aux forces extrémistes de déplacer avec eux au-dessus d'un million, presque deux.
La responsabilité de la France, il en sera question dans la série d'émissions qu'on présentera à partir du 30 mars. Valentine Rwanda, on a appelé cette série. Et puis, il va en être question beaucoup ces temps prochains à l'occasion du 10e anniversaire du génocide du Rwanda. Merci à Roméo Dallaire. Je rappelle encore une fois le titre de son bouquin, J'ai serré la main du diable. C'est au Libre Expression, l'éditeur. Merci aussi à Catherine Louis, Hervé Evenot de l'INA. Technique aujourd'hui, Michel Thomas, Antoine Viossa, assistant Coy Nguyen, le répondeur c'est Christophe Humbert qui s'en occupe et le numéro c'est le 01 56 40 37 37. Anne de Giaferi est notre assistante et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Évidemment, 18h sur Inter. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut.